Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Habituellement, je vous raconte la vie d'un personnage historique en deux parties, en deux semaines qui se suivent. Et cette fois-ci, j'ai fait une exception, j'ai raconté en une seule fois la vie de Monseigneur de Laval, parce que j'ai réservé la deuxième partie à une rencontre avec le père Henri, qui évidemment est tout à fait spécialiste de Monseigneur de Laval. Bonjour père.
Merci, bonjour.
Eh bien, je voudrais savoir, pour commencer, comment vous est venu cet intérêt vraiment intense pour le Monseigneur de Laval?
Alors, ça remonte un peu loin, dans la mesure où je crois que c'est le père Roudot, curé, ancien curé de Champrond en Gâtine, qui il y a 30 ans, 40 ans, était lui un spécialiste et qui avait milité pour la béatification de François de Laval. Et puis, moi, quand je suis devenu curé de Châteauneuf-Brezolles, évidemment, Montigny-sur-Avre étant sur ma juridiction, j'ai pris petit à petit, j'ai découvert cette figure. Et avec les dates qui avançaient, il y a eu l'annonce du congrès eucharistique en 2008 à Québec pour les 400 ans de la ville de Québec et les 300 ans de la mort de François de Laval. Alors là, dès que je suis arrivé sur Châteauneuf-Brezolles, j'ai dit à l'équipe de AP, l'équipe d'animation pastorale, on fait quelque chose en 2008. Alors je suis allé en 2007 pour la première fois à Québec, j'ai rencontré des autorités, y compris le cardinal Ouellette, qui m'a envoyé après un prêtre pour les fêtes en juin 2008 à Montigny, où c'était une fête extraordinaire. Donc petit à petit, la personne, on a le nom, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc petit à petit, je me suis amusé à chercher, à découvrir. Il y a des livres qui étaient déjà parus, mais il y en a eu beaucoup plus depuis. Et puis, on découvre cette figure qui, de chez nous, est partie là-bas, premier évêque de Québec, mais premier évêque d'Amérique du Nord, qui oui. Contient de la Louisiane jusqu'à l'Alaska, un immense diocèse. Bien sûr, tout n'était pas découvert à l'époque, c'est 1659 quand il est arrivé à Québec, mais voilà, une figure qui peut pas laisser indifférente encore aujourd'hui. Et on en parlera sans doute tout à l'heure, comme disait le cardinal le 30 avril dernier à la cathédrale. C'est un homme d'aujourd'hui, pour aujourd'hui, missionnaire certes, mais aussi un visionnaire.
Et alors en quoi est-ce qu'il était visionnaire?
Eh bien, ce serait sans doute un peu trop long de revoir toute cette histoire de la découverte de l'Amérique avec Jacques Cartier, Samuel Champlain en 1608, je crois. Oui, 1608, puisque c'est là qu'il a fondé Québec. Et comment, d'un côté, les colons qui arrivent en terre amérindienne, qui sèment la pagaille et qui finissent par détruire une partie de ces traditions amérindiennes, et lui, évêque, qui déjà avait été précédé dans cette démarche de la rencontre des peuples par Marie de l'Incarnation, qui est devenue sainte également le même jour que lui en octobre 2014, avril 2014, mais la cérémonie avait eu lieu en octobre 2014, et puis d'autres, Marguerite Bourgeois et d'autres femmes, des religieuses qui ont eu le sens de la personne qu'il rencontrait.
Elle était déjà installée là.
Marie d'Incarnation était bien avant lui, puisqu'elle est morte, je ne sais plus trop en quelle année, mais c'est lui qui l'a enterrée. Ce serait rigolo de voir, parce que j'en parlais l'autre jour à Québec, comment Marie d'Incarnation et François de Laval, deux saints, deux figures qui sont devenues saints, mais deux personnalités. Et j'ai dit, ça devait quand même se chamailler pas mal de temps en temps. Et on le sent parfois, non pas dans les écrits, mais dans l'ambiance qu'il y avait à cette époque. Et François de Laval, justement, il faisait partie du Conseil du Parlement. Et il a été en opposition souvent avec les gouverneurs, parce qu'il y avait les colons qui faisaient des trafics, qui payaient les Indiens ou les Amérindiens avec de l'alcool.
Oui.
Et on volait, c'est le trafic des pots de fourrure, oui, etc., etc. Et puis, lui, François de Laval, est allé jusqu'à venir en France demander au roi l'interdiction de ce trafic. Et il a même excommunié certains qui continuaient le trafic. Donc c'est quand même assez culotté pour la défense de la personne.
Oui, oui.
Donc,
oui, il allait à la rencontre des Amérindiens.
Oh ben, non seulement il allait à la rencontre, mais on nous raconte que l'hiver, il était en raquette, puisqu'il fallait bien avec la neige. Oui. L'été, il était en canot ou à cheval. Et il a fait 7 fois les visites pastorales dans cet immense diocèse. Vous imaginez bien quand il ne rentrait pas tous les soirs pour coucher à la maison. Et non, je crois que c'est ce sens de l'autre différent, selon nous. Parce qu'il y a une expression que je n'aime absolument pas, comme si, par exemple, je suis en train de chercher qui est-ce qui a découvert l'Amérique, aidez-moi.
Christophe Colomb
a découvert l'Amérique. Ben, on n'a rien découvert, parce que ceux qui étaient là...
Bah oui.
Imaginez que les Indiens qui vont à l'inverse découvrent la France ou le royaume de France. On est là. Je suis désolé, ils ne découvrent rien. Il y a des gens qui sont sur place. Donc, on s'approprie des choses qui ne nous appartiennent pas. Et ça continue encore aujourd'hui, nous le savons. Mais voilà, ben ça, François de Laval avec d'autres. Hein, et je pense bien sûr à Marie de l'Incarnation. Mais tous ces hommes, toutes ces femmes, ces jésuites, ces récollets, ces franciscains, tous ces hommes qui, parfois contre le pouvoir politique royal, ont pris en charge les personnes. Plus tard, il y a eu des erreurs. Plus tard, il y a eu des graves problèmes. 19e siècle, ça, le pape est allé l'année dernière au Québec, Canada, pour bien demander... Mais là aussi, c'est pas clair. Parce que quand on va sur place, on se rend bien compte que le gouvernement s'était déchargé sur l'Église de ce qu'il voulait faire des Amérindiens. Donc c'est très très compliqué. On ne peut pas non plus juger avec notre sensibilité du 21e siècle ce qui s'est passé.
Vous parliez des jésuites. Il a fait ses études chez les jésuites.
Alors il a fait ses jésuites au fameux, aujourd'hui on l'appelle le Prytanée militaire, mais c'est le collège de la Flèche fait par les jésuites. Prytanée existe toujours. La figure de François de Laval au Prytanée est très importante. Il y a même le cardinal Lacroix, quand il est venu en 2014, a donné une relique au Prytanée militaire. Et on m'a demandé de faire une petite conférence au mois de septembre au Prytanée, fin septembre ou début octobre, sur la figure de François de Laval, en disant aux jeunes comment cet homme qui avait tout, qui pouvait avoir tout, a tout abandonné, il y a beaucoup de tout là peut-être, mais a tout abandonné pour continuer pourquoi il se sentait fait. C'est ce qu'a rappelé le cardinal il n'y a pas longtemps.
Et en effet, il a tout abandonné parce que normalement, puisque ses deux frères aînés étaient décédés, il avait le titre, les biens.
Oui. Alors les biens, la figure
c'était pas énorme, oui.
Oui, cette branche des Montmorency-Laval de l'époque, c'était pas de très riche, mais ça va, c'était confortable, puisque le père avait quand même reconstruit l'église qu'on peut toujours voir aujourd'hui à Montigny-sur-Avre, donc ça devait dire quelques moyens. Le château actuel n'est pas tout à fait celui que François de Laval a connu, mais les dépendances sont encore là. Il y avait les terres, bien sûr, il y avait des seigneuries autres, et puis François de Laval lui-même, après, en tant qu'évêque, a acquis une fortune colossale par rapport à son époque. Il était propriétaire de l'île d'Orléans, à côté de Québec, et d'autres terres qui, aujourd'hui encore, pour certaines parcelles de terre, appartiennent encore au séminaire et à l'Église, qui lui permet d'avoir des moyens substantiels pour...
Moi, j'ai admiré, quand j'ai raconté sa vie, le fait qu'il ait tout abandonné, parce qu'il devenait l'aîné. Hein.
Oui, il devenait l'aîné, mais le cardinal Lacroix, le 30 avril dernier, à la cathédrale, pour les 400 ans, jour pour jour de sa naissance, disait « Voilà un homme qui avait tout, justement, qui pouvait reprendre la seigneurie, etc. » Mais il a dit oui à celui qu'il avait choisi, le Christ. Et là, ça change tout. Il a tout abandonné, y compris jusqu'à la fin. D'abord, son titre, il ne se faisait plus après... Il se faisait appeler Monseigneur de Laval et non plus de Montmorency-Laval. Il se faisait appeler après, quand il a démissionné à cause de maladie ou d'âge, Monseigneur l'Ancien. Et j'ai une anecdote, c'est écrit dans son serviteur qu'il avait avec lui, quand il est mort, lui a dit « Mais qu'est-ce que je vais avoir comme souvenir de vous ?» Monseigneur de Laval a sorti son couteau. Il ne lui restait que ça. Il lui a donné son couteau, ce qui veut dire que le 6 mai 1708, il est mort, il n'avait plus rien. Donc il a tout donné. Et c'est extraordinaire. Alors, Il ne s'agit pas de se dépouiller inutilement pour jouer les bienfaiteurs ou les je ne sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose. Est-ce que nous ne gardons pas des choses qui sont superficielles ou inutiles? Ça, on sait, pour faire le tri. Même nous, les hommes, hein, même nous, les prêtres, mais vous, les dames, dans vos armoires, il y a plein de trucs inutiles. Et puis, ben, comment se dépouiller jusqu'à être capable de donner le petit truc qui reste, l'abandon total? C'est ce qu'il a fait.
Absolument, oui. Alors, vous disiez que vous étiez allé donc plusieurs fois, hein, finalement, là-bas. Vous pouvez nous raconter un petit peu vos séjours et ce que vous y faites?
Ben, la première fois, je suis allé en 2007, sachant que le congrès eucharistique arrivait. Je suis allé là-bas pour essayer de voir ce que nous, à la paroisse de Châteauneuf-Brezolles, qui ne s'appelait pas encore Bienheureux François de Laval, c'est devenu maintenant non, la paroisse Saint-François de Laval, grâce à François Michery qui a pris la succession. J'ai rencontré des gens, le centre François de Laval. Si vous y allez à Québec, n'oubliez pas d'aller au centre François de Laval. Et là, j'ai été reçu par Marie-France, par Jean Duval, etc., et que j'ai retrouvé là il y a quelques jours. Et ils m'ont donné toutes les pistes.
Mais alors, en quoi consiste ce centre?
C'est un centre qui... C'est comme un musée. Où toute la mémoire de François de Laval, il y a les écrits, il y a les archives, il y a les documents, il y a actuellement une exposition où il y a son premier cercueil qui était en plomb, il y a ses objets liturgiques, il y a plein de documents, et c'est vraiment le fond. C'est le fond Monseigneur de Laval, ils appellent ça le centre François de Laval, mais il y a plein de choses là-dedans. Ils ont eu la chance, eux, d'avoir une révolution, entre guillemets, tranquille dans les années 60, ce qui fait qu'il n'y a rien eu de détruit. Mmh. C'est pas comme notre révolution à nous qui a détruit beaucoup d'archives, mais ça c'est très intéressant. Et vous pouvez taper sur internet Centre François de Laval, tout de suite vous allez trouver qui est François de Laval. Qui sommes-nous, comment nous joindre, etc. Et puis on retrouve toutes les cérémonies. On a vu ils ont mis en ligne les cérémonies du 30 avril dernier avec cette fête. Alors plein de photos aussi où on retrouve le petit groupe de Chartres. Nous étions 16, je crois. L'évêque François Michery, l'abbé Potier et moi-même comme prêtres, mais il y avait des laïcs aussi. Et bon, ben on était logés au séminaire. C'est ce que j'avais fait dans les années... Quand je suis retourné plusieurs fois, une fois, je suis resté 10 jours là-bas. Donc, en 10 jours, on a le temps et de découvrir la ville, mais aussi de fouiner dans les... Puis de rencontrer des spécialistes. Je pense à Mgr Giguère, que j'ai retrouvé aussi là l'autre jour. Et un grand spécialiste de François de Laval. Et... Non, c'est une figure qui ne peut pas laisser indifférente. Et c'est dommage que chez nous... On n'est pas cette envie de chercher qui ils sont, ceux qui sont partis, ceux qui ont tout quitté, comme on disait tout à l'heure. Mais il n'est pas parti pour faire fortune, il est parti parce qu'il a répondu à un appel. Et alors qu'il devait aller au Tonkin, je vous rappelle, il devait aller de l'autre côté, et il se retrouve de l'autre côté. C'est Anne d'Autriche avec le roi qui demande au pape, dis donc, on a besoin de lui en Nouvelle-France. Le pape a dû dire, bon, vaut mieux que j'obéisse.
Oui, parce qu'à ce moment-là, entre Louis XIV et l'Église, il y avait des frottements.
Oui,
hein.
oui. Bon, Madame de Maintenon n'était pas encore arrivée pour remettre un peu d'ordre.
Bon. Donc la dernière fois que vous êtes allé là, vous en revenez?
Eh bien là, on en revient, oui. Et puis,
Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé?
Alors, moi, je suis arrivé un petit peu plus en retard par rapport au groupe. Bon, il y a eu les visites, ils sont passés par Montréal, où ils sont allés au centre, au sanctuaire de Saint-André, de Saint-Joseph, pardon, grâce au frère Saint-André. Et puis, ils ont fait d'autres... Mais moi, je les ai rejoints au moment où ils étaient dans le musée des sœurs Augustines. Là aussi, c'est extraordinaire. Ces femmes qui, au XVIIe siècle, jusque dans les années 2000, 2010, ont été à la tête des hôpitaux et des écoles, les Ursulines avec les écoles, Marie de l'Incarnation qui apprend l'amérindien pour que les filles huronnes puissent avoir une instruction en leur langue. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, bon, il y a eu les visites, bien sûr, non pas protocolaires, mais amicales avec les autorités religieuses, avec le cardinal. Moi, j'ai raté le repas, le cardinal qui dit, ah, c'est dommage, ce soir, il y a du dessert avec du sirop d'érable. M'en fiche, j'en ai acheté, mais j'ai raté le gâteau. Mais non, les cérémonies étaient très belles. C'était pas facile d'accéder à la cathédrale. Alors, une petite anecdote, puisque oui, j'avais la chance d'avoir été plusieurs fois, je rencontre un vieux prêtre du séminaire. Je lui dis, puis il pleuvait. C'est le seul jour où il a plu, avant que je ne parte. Et puis, j'ai dit au père, mais il me semble qu'on peut aller à la cathédrale par en dessous, par les souterrains, parce que le séminaire est très vieux, il est du 17e siècle. Il me dit oui. Alors, je vous emmène. Alors, tout le groupe, on est parti par les souterrains, et puis on est rentré à la cathédrale à pied sec. Il y a des petits détails que je savais. Bon, faut pas que je dise trop « moi, je
». Donc, tout à fait intéressant. Alors, mais c'est surprenant parce que, bon, moi, je ne suis pas originaire d'Eure-et-Loire, mais pour les gens d'Eure-et-Loire, je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent bien François de Laval, hein.
Est-ce que les gens connaissent bien en Eure-et-Loire Jean Moulin, dont on fête cette année les 70 ans, les 80 ans de sa mort? Est-ce que les gens connaissent bien, promenez-vous dans les rues, ne serait-ce de Chartres ou de votre village ou de votre ville, qui c'est celui-là, qui c'est celle-là? Bon, il y a plein de trucs qu'on ne sait plus, y compris nos... Bon, place du Général de Gaulle, ça devrait encore aller, mais dans 50 ans, ce n'est pas sûr. Non mais c'est dingue, on ne s'intéresse pas. D'ailleurs, est-ce qu'à Montigny-sur-Avre, il y a la rue François de Laval? Il y a une plaque sur l'église. Il faudra que je demande à monsieur le maire s'il y a la rue François de Laval, Saint-François de Laval. Mais voilà, c'est quand même des gars de chez nous qui sont partis là-bas dans des conditions épouvantables parce qu'un bateau sur trois coulait.
Bah oui, parce que,
il
oui.
a fait cette fois l'aller-retour aussi, dans des conditions, l'été on crève de chaud, l'hiver on meurt de froid, et puis il y avait encore quand même quelques attaques, pas forcément des Hurons, mais des Iroquois, qui étaient alliés des Anglais, à nos chers amis anglais. Maintenant qu'on a un nouveau roi, donc on va essayer de l'aimer comme sa vénérable mère.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah oui, chacun voulait le gâteau, quoi.
Et quand on arrive à Québec, mine de rien, c'est le Canada, mais c'est la belle province, et ils tiennent à parler français. À ça, et puis l'accent. Alors, quand on leur dit « vous avez un accent », ils disent « non ». D'après des spécialistes, c'est eux qui ont la langue du XVIIe siècle. Ils l'ont gardée. Oui, c'est nous qui avons tout transformé.
Oui, oui. Je l'ai entendu, c'est hors sujet, mais je l'ai entendu par un comédien réciter l'acte de mariage de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz.
Ah oui.
Avec les R qui étaient tout à fait roulés.
Oui. Hein, oui, oui. Et puis les François.
Oui. Oui. Alors, ils ont gardé, oui. Mais moi, j'aime bien écouter.
Petite anecdote, quand je suis arrivé en 2017, c'était au mois de novembre, je rêvais de voir la neige, pas de neige. J'avais beau supplier tous les saints du ciel. Ils ont fini par m'entendre puisque je partais le lendemain et le soir, il se met à neiger. Le lendemain matin, je me suis levé de bonne heure. J'ai fait toutes les rues de Québec pour prendre des photos. La fameuse rue, une des classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, la rue du Petit Champlain. C'est un bijou tout petit, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et alors, on vient me chercher pour m'emmener à l'aéroport. Bon, ça va aller pour aller à l'aéroport, il n'y a pas trop de neige. À vous les Français, dès qu'il y a 3 cm de neige, vous êtes perdus. Et ça, c'est vrai, hein, parce que ça, c'est la pagaille, même à Chartres. Mais non, et puis, c'est vrai que la communauté chrétienne là, qui a reçu le petit groupe avec l'évêque, je crois qu'ils étaient très contents. On était marqués dans toutes les présentations. Il y aura un groupe de Chartres avec leur évêque, il y aura ceci. Partout, on a été reçus. Ça serait bien que vous interviewez aussi peut-être François Muchery parce qu'on est allé à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, tenue par l'Emmanuel, Et là, on a appris des choses, on a vu et comment ils étaient heureux de nous recevoir, pas uniquement parce qu'on était de la vieille France, parce que eux, c'est la nouvelle France, mais parce que on venait pour cette occasion honorer, vénérer, célébrer ce saint évêque qui est parti d'un tout petit bled. Hein. Le village n'a pas beaucoup plus grandi. Je me demande si au XVIIe siècle, il n'y avait pas plus de population qu'aujourd'hui, avec les fermes du château et des.
Finalement, on dirait qu'il est plus honoré là-bas qu'ici.
Ah oui, ah bah oui. Oui, parce que dès qu'on est en ville, il y a la statue de Champlain qui est tout près du château de Frontenac. Il y a la statue d'autres découvreurs, mais il y a l'immense statue entre l'archevêché et la montée vers le château de François de Laval qui est là, bras ouverts. Oh, j'ai bien aimé parce que le cardinal à la messe, il a dit « On nous a refait une statue de François de Laval et je l'aime bien ». François Muchery aurait bien aimé l'emmener. Mais elle est trop lourde. Mais ça serait bien qu'il ait une copie. Parce qu'ils ont fait une statue moderne de François de Laval avec sans la mitre, mais avec son bâton et en marche. Il a dit, voilà, c'est ça ce missionnaire. Toujours en marche, toujours en avant, toujours avancer, toujours aller au-delà du possible. Et ça, c'est une figure pour nous. Oser toujours aller. Je crois que vu la situation actuelle, il ne s'agit pas trop de regarder par derrière. Même s'il faut avoir des racines, il faut aller devant. Et puis, devant, on ne sait pas toujours ce qu'il y a, mais il y va, on y va. Oui. Puis le bâton, c'est peut-être pas uniquement pour marcher, pour se tenir, ça peut être aussi pour se défendre au cas où.
Eh bien, nous allons faire une première pause musicale.
Il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, et nous serons mon frère.
Je voudrais que nous revenions sur un terme, parce que je l'ai bien développé dans l'émission précédente, sur le terme séminaire, parce que son but...
Ah oui. C'est une des premières choses qu'il a fait. Il est arrivé, l'Église, on ne peut pas dire, elle était présente, puisqu'elle est arrivée avec, je pense qu'elle est arrivée dès le XVIe siècle avec Jacques Cartier, mais Lui, quand il est arrivé en 1659, je crois que c'est en avril 1600, ou juin 1659, il est parti en avril 1659 de La Rochelle, et arrivé là-bas, eh ben, voilà, il a réuni tout ce qu'il avait comme force vive, prêtres et religieux, religieuses, et une des premières choses qu'il a créées, c'est le séminaire. Le séminaire, dont les fondations existent toujours, parce qu'il a eu le drame de le voir s'enflammer avec la cathédrale. Il a eu, après, il l'a pas vu, mais avec les Anglais en 1759, également encore destruction et incendie de la cathédrale, qui a encore brûlé pour la troisième fois entièrement en 1922, reconstruite magnifique et splendide, etc. Mais voilà, fonder ce qui peut permettre je pense que, je ne sais pas, j'ai pas lu, sans doute faudrait qu'on aille chercher, très vite il a dû avoir des Amérindiens éduqués qui sont devenus eux-mêmes.
Il voulait un clergé local.
Oui. Oui, oui. Alors, le clergé local, il s'en est déjà servi dans les colons, entre guillemets, qui étaient là, et ceux qui pouvaient accéder à l'éducation. Et à partir de là, voilà, il n'a pas fait que faire venir des prêtres ou des jésuites du royaume de France, mais il a lui-même cherché sur place, à Québec et autour, et puis il a tout organisé pour que, non seulement il ne manque pas de lieux pour étudier, d'écrits pour s'instruire, mais aussi de quoi se nourrir. C'est là qu'il a acheté des terres,
pour pouvoir avoir des
y compris
cultures,
une ferme, voilà. Y compris d'autres propriétés pour pouvoir subvenir. Et il a même inventé, entre guillemets, une maison de retraite. Il y a un endroit où on n'a pas pu y aller, je le connais, un endroit où, vers la ferme de François de Laval, il y avait un lieu de retraite, c'est-à-dire... où les prêtres pouvaient aller soit se reposer, soit se retirer en fin de ministère. Ils n'étaient pas tous obligés de rester à la ville.
C'est moderne comme idée. Hein.
Ah ben c'est très moderne comme idée. Oui, oui. Puis, voilà. C'est ce souci donc, de la personne. Pas uniquement de « tu fais ton boulot comme prêtre religieux religieuse », mais tu fais... Voilà. On prend aussi de l'humain, de la personne, parce que ça fait un tout. Je crois que... Un des gros problèmes, que ce soit dans l'Église ou dans le monde, quand l'humain ou quand le spirituel et l'humain sont pas équilibrés, on marche en boitant. Hein. Donc il faut trouver l'équilibre. Et je crois qu'on a besoin aussi de retrouver, pas forcément... faut pas monter trop haut. Je crois qu'avec des choses simples, on peut avoir les pieds sur terre, les deux, ça vaut mieux. Mais c'est, quand on marche, on est rarement les deux pieds sur terre, sinon on n'avance plus.
Alors, on parlait du séminaire, si je me souviens bien dans ce que j'ai lu, après ça, il a voulu faire un petit séminaire.
Alors, il y a eu le petit, je pense qu'il a commencé par le petit séminaire.
Ah bon ?
Et après, il a fait le grand séminaire. Et alors, c'est pas lui, mais aujourd'hui, il y a l'université de Laval. L'université François, alors je pense qu'au départ, c'était l'université François de Laval, maintenant c'est l'université de Laval. De Laval, pas la ville de Laval, le nom de oui. Monseigneur de Laval. Et c'est une immense université dont les locaux ne sont plus à Québec même. Une partie des locaux sont encore à Québec même, tout près dans les anciens locaux du séminaire. Mais ils sont une bonne heure, une heure et demie de marche du centre-ville. Et là, cette université, c'est colossal. Et ça, c'est une renommée mondiale.
Alors, c'est une université religieuse ou...
Alors, non, elle a dû être, peut-être, mais aujourd'hui, c'est comme la Sorbonne.
Oui.
Voilà, fondée par des religieux, mais qui, maintenant, c'est la Sorbonne, d'autant plus qu'en 1962, là aussi, se sont fait, ils ont eu la Révolution tranquille qui a laïcisé aussi pas mal de choses. Et c'est pas plus mal qu'ils soient pas propriétaires. Je pense que ça leur coûterait très cher. J'allais dire une bêtise.
Mais j'ai lu donc quand j'ai raconté sa vie qu'il était quand même très malade et qu'il est parti en France pour essayer de se faire soigner.
Oui. Est-ce que c'était pour donner sa démission?
Oui.
Que le roi a refusé. Oui, oui.
Absolument.
Et qu'il l'a renvoyé. Il est resté, je crois, 3 ans la dernière fois en France. Il est reparti. Son successeur, Monseigneur de Saint-Vallier,
Ah oui, il y a eu des problèmes.
On ne peut pas dire qu'il a bien marché dans les pas de François de Laval. Il a plutôt démoli en grande partie. Et Mgr de Valier était plus à la cour de France que sur le terrain.
À l'époque, c'était un petit peu la façon de faire. Hein.
Oui, d'accord.
On gérait de loin. Hein. On n'allait pas sur place. En quoi il a été remarquable, justement?
Ça fait quand même pas mal de milliers de kilomètres de différence. Il n'y avait pas les Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Et ben, les communications, pendant ce temps-là, c'est le bazar. Vous savez, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Hein.
Oui.
Et je pense
mais quelquefois, elle était bien obligée d'aller en France, ne serait-ce que pour avoir des fonds ou des autorisations.
Alors, c'est rigolo parce que vous dites qu'il était malade, mais il est mort à 85 ans finalement. En 1708. Malade, mais coriace, hein, solide. Alors, je ne sais pas si c'était parce qu'il avait pris des bonnes racines à Montigny-sur-Avre et que ses parents l'avaient bien, bien enraciné. Mais je pense que... Oh, j'ai posé une question. Excusez-moi, je fais une petite...
Allez-y.
J'ai posé une question là-bas. Est-ce que François de Laval serait passé par Chartres? Alors, on m'a dit probablement parce que quand il revenait... En France, au Royaume de France, qu'il allait à Versailles, il ne manquait jamais d'aller voir ses parents, sa famille, à Montigny. Donc Montigny, et comme il devait aller vers Tours, parce qu'il avait des abbayes, il avait l'abbaye de je ne sais plus trop où, là, à côté de Dreux, il en avait une dans le Cher.
Il avait...
Il était commandataire.
C'est ça, parce que ça permettait d'avoir des revenus.
Voilà, c'est ça.
Mais ce n'était pas à lui.
Non, ce n'était pas à lui, mais il était commandataire. Et... c'est pas possible qu'à 35, 40 kilomètres de Chartres, c'est pas possible qu'il n'ait pas vu notre cathédrale. Non, c'est surtout que on nous l'a bien rappelé que sous son épiscopat, je crois que c'est là que Chartres a reçu la fameuse wapom, la ceinture des Hurons, qui est au trésor de Chartres, de la cathédrale. Elle est actuellement au musée du Quai Branly, mais quand le trésor va être ouvert dans quelques semaines ou quelques mois, j'espère, la ceinture de wapom des Hurons reviendra dans le trésor. Elle est magnifique, j'ai eu la chance de la voir plusieurs fois.
Excusez-moi, mais je ne connais pas du tout l'histoire.
C'est les Indiens Hurons qui ont fait une allégeance spirituelle à Notre-Dame de Chartres, via sans doute les Jésuites, avec sans doute la bénédiction, je ne sais pas la date exacte, la bénédiction de François de Laval, et ils demandent à Marie de les accueillir comme étant leurs futurs enfants qu'ils deviennent et qu'elles mettent en eux le désir d'être ses fils, ses filles, etc. C'est extraordinaire le texte qui accompagne cette... ils font vraiment, ils la supplient d'être leur maman.
Je comprends bien. Quel est cet objet? Comment se présente-t-il?
Alors, c'est une ceinture en coquillage. Alors, qui aujourd'hui a une valeur inestimable, bien sûr, mais qui à l'époque, c'est des bijoux, hein, vous savez, c'est des coquillages qu'on affile. C'est un peu, c'est pas plus large que ça, même pas. C'est quoi? C'est même pas 10 centimètres de large sur peut-être. Presque un mètre peut-être de long, avec des couleurs, avec des noms dedans dont je sais pas, mais c'est un don fait à Notre-Dame de Chartres.
D'accord.
Pour faire vraiment pour une union, une communion avec et c'est les Hurons, c'est pas les colons, c'est vraiment les Indiens Hurons qui supplient Marie de les accueillir pour être de sa famille.
C'est
extraordinaire. L'abbé Potier vous en parlerait mieux que moi parce qu'il a le texte en entier. On attend avec impatience que le trésor se rouvre.
Ça va être un petit peu à côté, mais précisez-moi, où va se trouver le trésor?
Au-dessus de la chapelle Saint-Pierre.
Ça, oui.
Hein, ces travaux qui n'en finissent pas, mais nous supplions la DRAC de nous rendre rapidement cette ouverture du trésor, sachant que la cathédrale, nous le savons, est de plus en plus belle grâce aux travaux de restauration qu'il y a à l'intérieur. Donc, mais il y a probablement d'autres choses aussi de cette époque. Je ne sais pas si aux archives diocésaines on a des documents, mais si on veut, je vous dis sur le site du diocèse du centre François de Laval, on peut avoir accès à des documents authentiques de l'époque. Hein, une lettre d'Anne d'Autriche, des lettres de François de Laval. Il y a, c'est eux qui, on a encore l'instruction de François de Laval à ses missionnaires, quand il les persuade de bien qu'étant envoyé pour travailler à la conversion des infidèles. Ça, je sais pas si ça passerait,
oui,
je sais pas si ça passerait aujourd'hui. Ils ont l'emploi le plus important qui soit et qui leur doit obliger pour se rendre digne instrument à se perfectionner dans toutes les vertus propres d'un missionnaire apostolique. Qu'ils tâchent d'éviter deux extrémités qui sont à craindre en ceux qui s'appliquent à leur conversion, de trop espérer ou de trop désespérer. Ben oui, je crois que ça c'est pour toute vocation, qu'elle soit sacerdotale, religieuse ou laïque, je crois que oui, de temps en temps on met la barre un peu trop haut ou alors quelquefois on a la barre tellement bas qu'on passe dessous, donc on ne sait plus. Voilà, trouver l'équilibre. Et ça, dès le départ, François de Laval avait ce sens. Et il a acquis ça, on y revient un tout petit peu, chez les jésuites, à La Flèche. Parce que très vite, vers l'âge de 10 ans, il faisait partie de la confrérie de Notre-Dame. Et puis, il a développé le culte de Sainte-Anne, il a développé le culte de la Sainte Famille. Il a nommé une paroisse de l'Immaculée Conception, au 17e. Tiens, bon, plein de choses comme ça. Et c'est un visionnaire, c'est... Bah oui, c'est un saint. C'est pour ça que sans doute il est saint. Bah, on a du boulot, hein.
C'était une personnalité, quand même, alors.
Oui, il faut la découvrir. Parce que, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est pas uniquement qu'au niveau religieux, c'est au niveau humain. Et oui, il marchait bien, il fonçait, mais les deux pieds sur terre.
Il a eu des oppositions, hein.
Oh, bah sans doute. Vous connaissez quelqu'un qui fait du bien, qui n'a pas d'opposition, vous ? Même quand après on dit ah bah oui, c'est peut-être ça finalement, on devient saint que quand bah oui, il n'y a pas de choix, il faut mourir pour être saint, mais comme on n'a pas forcément envie de mourir tout de suite, entre temps il y a de la bagarre, il y a des oppositions humaines et spirituelles, c'est normal.
Et en France, il y a des cérémonies pour fêter justement le 400e.
Alors, comme je crois que l'émission se passera avant le 21 mai, je crois qu'il y a ça existe un 21 mai, c'est un quel jour ? Enfin, ça doit être le 21 mai, oui c'est ça, le 21 mai à Montigny-sur-Avre, cette année, oui. Il y a les fêtes de François de Laval. Je pense que François Muchery va bien faire quelque chose parce que ça sera les 400 ans. Normalement c'est le 6 mai, mais comme ça sera passé, donc c'est le et qu'il n'a pas eu le temps sans doute d'organiser. Donc là, il m'a dit que c'était le 21 mai qu'il y avait une cérémonie à Montigny.
Et il s'intéresse lui aussi à...
Ah oui, ça y est, oui.
Comment ça lui est venu, lui, alors ?
Eh bien, parce que... Non, c'est pas moi, c'est tout simplement parce qu'il a 700... Il est responsable au niveau de l'art, au niveau du diocèse, il est responsable du patrimoine plus ou moins religieux, donc et il a cette fibre, et c'est chouette, c'est bien, parce que ça évite de faire des bêtises. Quelquefois, vous savez, quand on fait le tri dans des affaires, on jette des choses et puis après on dit si j'avais su. C'est un appel aussi à tous nos curés ou paroissiens ou autres. Quand on fait le ménage dans une église, ne jetez rien sans avoir donné d'abord à l'archiviste. Lui seul, l'archiviste, peut dire je l'ai en double, je l'ai en triple, je l'ai en quadruple, je peux jeter ou vendre. Mais jamais, jamais. Parce que ça, c'est une catastrophe. Hein. Quand c'est jeté, on a vu ça dans les années après le concile, mais on voit ça encore aujourd'hui, j'en ai été témoin il n'y a pas très longtemps, où on met dans un sac poubelle, on veut jeter quelque chose, et heureusement, la dame, je la vois encore, qui ouvre le sac, je lui dis « Oh mon Dieu, mais jetez pas ça !» Et j'ai donné le sac à Jean-Christophe, qui, après, il en fait ce qu'il veut. Mais il y a des choses que... Non. Ça, c'est une maladie de chez nous...
Est-ce qu'il y aura au moins une publicité pour cette cérémonie le 21 mai, parce qu'on n'en entend pas parler ?
On va demander à Jean-Christophe de Radio Grand Ciel d'en parler, qui de temps en temps disent « Tiens, ben, je pense que la cérémonie aura lieu à 10h30 ou à 11h, messe à Montigny-sur-Avre, pour les 400 ans de la naissance de François de Laval, devenu Saint François de Laval, premier évêque de Québec, apôtre de l'Amérique ». Selon les dires du pape François, lors de sa canonisation avec Marie de l'Incarnation en octobre 2014. Donc, vous voyez, il l'a déclaré, tous les deux, ils sont apôtres. Ça veut dire que c'est bien autre chose que.
Eh bien, nous sommes obligés de nous quitter. On pourrait parler encore longtemps. Hein.
Je crois qu'on va entendre en musique...
Eh bien, si vous voulez peut-être nous lire...
C'est l'ode, c'est une ode à François de Laval, Ariagouaigui, de Robert Lebel. C'est là, dans cette humble chapelle, menée dans un canot d'écorce, vous parcouriez le Saint-Laurent, quand quelques braves paysans, pas de cheval, pas de carrosse, non, c'est à pied que vous alliez... vous étiez l'homme du partage, toujours prêt à tendre la main, oui, ça c'est vrai, pour dispenser votre héritage, offrant vos terres et vos biens. Que sert à l'homme de vouloir gagner l'univers s'il en vient à perdre son âme, etc. Et le fameux Ariagouaigui, François de Laval, tout premier pasteur de notre peuple, bien-aimé pasteur au cœur du peuple de chez vous. C'est extraordinaire comme ça, c'est très très beau, une belle musique en plus, donc on va sans doute terminer là-dessus. Et puis,
eh bien, vive François de Laval, parce que... C'était fort intéressant, vraiment. Bonne journée à tous.
C'est là, dans une humble chapelle, un jour à Saint-Germain-des-Prés, au loin, une voix vous appelle depuis la côte de Beaupré. Sur cette terre amérindienne, autour de l'île d'Orléans, où naissait l'âme canadienne et tout un peuple en même temps. Venez dans un canot d'écorce, vous parcouriez le Saint-Laurent, sans autre garde ni escorte que quelques braves paysans. Pas de cheval, pas de carrosse, non, c'est à pied que vous alliez. Sur vos raquettes et sur les glaces, chez l'habitant de ces contrées. Partage, toujours prêt à tendre la main, pour dispenser votre héritage, offrant vos terres et vos biens, tout en disant que sert à l'homme de vouloir gagner l'univers, s'il en vient à perdre son âme en oubliant celui qu'il sait. Ce ne sont pas les beaux langages, pas plus que les plus qui porte au fruit et témoignage, mais notre joie et notre amour. N'alliez-vous pas vers les malades sans craindre de toucher leurs plaies, faisant les lits et le ménage, passant vous-même le balai. Il vous souffrait d'être mêlé entre puissances et leurs intrigues obstinées.